quand on lui disait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Elle répondait « Paléontologue ». Anne d'Ambricourt-Malassé est une jeune femme enthousiaste et révoltée. Chercheure en paléontologie humaine au CNRS, elle bouscule le monde des scientifiques avec une thèse hardie sur l'évolution du vivant à partir de son travail sur les crânes des hominidés. C'est par un geste très simple qu'elle fit une découverte étonnante, remettant en cause la théorie darwinienne sur le redressement de l'homme. Même si son travail est reconnu et approuvé scientifiquement par les institutions, elle ne manque pas de controverses. C'est à l'Institut de recherche en paléontologie humaine, premier centre de recherche au monde consacré aux origines de l'homme, que nous l'avons rencontrée. Voici le parcours d'une femme déterminée et courageuse qui nous raconte, comme dans une confidence, un autre regard sur l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui vous passionne tant et comment vous êtes arrivée ici ?
Ça remonte très loin. C'est très jeune, très enfant en fait. Et dès que j'ai appris l'histoire, dès que à l'école on apprenait les Gaulois et la préhistoire, c'est un soir, j'apprends mes leçons avec ma mère. Et puis, c'était la deuxième leçon. Il y avait une belle image avec des Gaulois, puis une petite axe qu'il fallait apprendre en dessous. Et je n'arrivais pas à les situer dans le temps. Donc je demandais à ma maman, et c'est ce qu'elle avait connu les Gaulois. Voilà, parce qu'elle était forcément plus âgée que moi, donc les Gaulois étaient loin dans le temps, donc ma mère avait certainement beaucoup vécu, elle avait dû connaître les Gaulois. Et évidemment, elle me répond que non, c'est plus vieux que ça. Donc mon deuxième repère, c'était ma mamie, ma grand-mère, la maman de ma mère. Et là, de nouveau, un désemparement total de ma part. Non, ma grand-mère n'avait pas connu les Gaulois. Alors ça a été... C'est le désemparement. Je ne voyais pas comment situer les Gaulois dans le temps. Ne pas pouvoir me raccrocher à cette grande distance, dans cette grande profondeur, c'est-à-dire un trou de mémoire. Et c'est l'impression que j'ai eue, c'est un trou noir. Ça a été l'éveil à l'histoire, l'éveil au passé, la conscience que le temps s'écoule, que l'histoire change, que le monde n'a pas toujours été comme je le connaissais, et que voilà, tout ça évolue, j'ai pris conscience de l'évolution.
En 1982, Anne entre à l'Institut de recherche en paléontologie et devient chercheure au CNRS avec sa thèse sur l'évolution de la mandibule ou mâchoire inférieure chez les hominidés. Au lieu de regarder les crânes par le dessus, Anne se met à les retourner afin de mieux observer les mouvements de la mâchoire. Grâce à cet angle d'observation, Anne découvre un petit os, le sphénoïde, situé au centre du crâne, qui s'avère, selon elle, jouer un rôle clé dans l'évolution de notre espèce, et plus particulièrement dans notre position redressée et la bipédie.
La première partie du squelette qui se forme, c'est la base du crâne. Et ensuite, il y a un gradient qui va du pôle antérieur vers le pôle caudal. On commence par former d'abord le crâne, ensuite les vertèbres du cou, ensuite les épaules, les bras, la colonne vertébrale, le bassin, les jambes. Et le sacrum en dernier. Alors vous regardez n'importe quel coin de repère, un chien, un chat, une chauve-souris, à la naissance et chez l'adulte, le crâne est resté plat.
C'est-à-dire le premier état à l'embryon, voilà, c'est le même. Chiens, que les...
Voilà, nous nous formons comme n'importe quel mammifère, notre crâne est plat. Mmh. Il est dans il a cette polarité antéro-postérieure. les quadrupèdes gardent cette polarité antéro-postérieure de la base du crâne. Ils resteront quadrupèdes. Mais nous, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une plicature entre le sphénoïde et l'occipital. Le cou qui devrait être horizontal, eh bien, il se redresse. Donc, la polarité antéro-postérieure, elle se réduit. Et qu'est-ce qui émerge, finalement? C'est une polarité verticale. Elle est inexistante pour les quadrupèdes. Il n'y a pas de verticalité de la masse du crâne. Et de tous les mammifères, qui croyez-vous qui a la verticalité maximale? Le genre humain n'est pas le seul à être caractérisé par cette verticalité de la base du crâne. Il y a d'autres espèces qui sont ce que je vous ai montré tout à l'heure, les australopithèques. Mais la différence entre les hommes et les australopithèques, c'est que les australopithèques sont restés arboricoles.
Depuis les années 80, une seule théorie de l'évolution de l'homo s'est véritablement imposée. Least Side Story. Le moteur de l'évolution sera une adaptation au milieu par la sélection des mutations les plus intéressantes pour l'espèce. Le redressement du corps et la bipédie se seraient ainsi développés chez les hominidés, apportant un avantage stratégique, la faculté de voir au-dessus des longues herbes de la savane. Pourtant, d'après ce que nous dit Anne, les australopithèques n'ont pas attendu de quitter la forêt pour se lever. Alors, si l'environnement n'en est pas la seule cause, quel est cet autre facteur qui a fait que l'homme s'est redressé ?
Dans l'idée de Darwin et de ses contemporains, l'homme descendant des singes, les singes sont d'abord des espèces arboricoles qui vivent dans les arbres. Donc l'idée était que si nous ne sommes plus des arboricoles, c'est parce que nos ancêtres ont cessé d'être arboricoles. La bipédie serait le substitut d'une locomotion arboricole. Et puis, les fossiles aidant, on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça, puisque nous avons ces fameux australopithèques qui posent problème. Ils sont à la fois bipèdes avec un trou occipital vers l'avant, une base redressée, mais encore terriblement arboricoles. Ils ont les pieds, les mains, les bras caractéristiques d'un mode de vie dans les arbres. C'est-à-dire les bras, les doigts peuvent s'accrocher aux
Alors comment arbres. Les darwinismes le justifient, ça?
Eh bien, dans l'ensemble, je ne risquais pas trop à expliquer, on n'en parlait pas. Ce n'est pas tant en paléontologie humaine que l'on s'attache au modèle dit néo-darwinien, justement parce que c'est pas...
Il y a des choses qu'on n'explique pas.
Ça ne se vérifie pas partout. En Afrique du Sud, où il y a beaucoup d'australopithèques qui ont été trouvés, avec sans doute peut-être un peu plus de cette locomoteur, ça fait 10 ans que l'hypothèse sur le modèle est abandonnée. Le modèle de quoi? Le modèle de « il faut que les arbres disparaissent pour que le squelette se redresse ». Bon, il faut du temps hein, pour arriver à admettre qu'il puisse en être autrement. C'est carrément un paradigme. On vous explique pendant je ne sais pas combien de générations qu'on se redresse parce que les arbres ont disparu.
Et puis, il faut changer tous les manuels.
Ben oui, c'est la science. Hein. C'est si on fait de la science dans l'idée de répéter ce qui est déjà connu, on s'est trompé. On fait de la recherche. C'est ça la recherche, c'est aller vers ce qui n'est pas encore compris, c'est dans les zones où tout est à découvrir. Sinon, c'est pas la peine.
Et est-ce que vous avez toujours eu l'intuition que c'était pas forcément cette théorie-là qui prenait...
Ah, moi j'ai toujours été convaincue.
Ah oui.
Ah, toujours convaincue.
Toujours.
Ah oui, oui, oui. Ah oui. Parce que on nous présentait l'australopithèque complètement transformé de la tête aux pieds. Donc je n'ai jamais cru au gradualisme. C'est-à-dire l'acquisition de caractères isolés les uns des autres.
Pour vous, c'était un ensemble qui...
C'est l'ensemble, voilà. Et donc... Ce sont des parties qui sont corrélées. Et si une partie change, ben le reste suit, quoi. C'est une question de cohérence et une vision très systémique qui avait besoin, donc, pour être étayée, d'une autre discipline qui est la génétique, mais la génétique du développement embryonnaire, et qui donne tout à fait raison à cette perception de la complexité des êtres vivants, des organismes. L'idée, c'était, dans le fond, c'est pas l'os adulte qui change, c'est pas l'os adulte qui évolue, l'adulte, il va mourir. Et alors, je me suis intéressée à l'ontogenèse, le développement, en remontée jusqu'à l'information qui est contenue dans nos cellules sexuelles, nécessaire pour qu'un embryon se développe.
Vous avez quitté les os, là, à ce moment-là?
Alors, j'ai quitté les os, pas tout à fait. Disons que j'ai regardé les os sous un angle dynamique, associé à un os, une trajectoire. Et comment, me direz-vous, pouvez-vous nous parler des embryons d'Australopithèque?
Ben oui.
Puisque ça ne se fossilise pas, c'est de l'ordre de l'inframillimètre, c'est pratiquement que de l'eau dans un peu de cartilage. Donc, qu'est-ce que cette histoire-là?
Cherchez des embryons d'Australopithèque.
On sait bien que vous cherchez quelque chose qui ne se voit pas depuis votre enfance, mais... Mais comment faites-vous? Et bien justement, c'est en la regardant toujours, en allant au plus près de ce que l'on ne comprend pas, de ce que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire la base du crâne et l'intérieur de la base du crâne, qu'il est apparu des angles à la naissance, chez l'enfant, chez l'adulte, des angles qui se mettent en place à la fin du développement de l'embryon. Donc on a une architectonique, on a une charpente pour tout ce qui est base du crâne qui est fixée après 8 semaines. 8 semaines après la fécondation, nous avons, nous, une configuration qui est celle que nous allons voir à la naissance et que nous allons garder jusqu'au stade adulte. Ça n'empêche pas, bien sûr, que d'autres tissus se développent, puisque le cerveau va compléter, parce que se développer surtout au stade fœtal, la denture va se mettre en place, le larynx va s'abaisser, les muscles vont se développer. Mais il y a un plan de construction. Et c'est sur ce patron que l'organisme va continuer de se complexifier, de se développer.
Que vous comprenez l'homme à travers, avec de l'intérieur
plutôt de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, ce qu'on appelle l'inside story ou l'approche internaliste, ce qui n'exclut pas du tout de la prise en considération de l'environnement. Mais la différence avec la grande majorité des paléontologues, c'est que je ne tiens pas compte exclusivement de l'environnement. Et la rupture, elle se fait là précisément, c'est que ce qui est lié au développement de l'embryon, du fœtus, tout ce qui est interne, se développe en premier, bien sûr, bien avant la locomotion, bien avant l'adaptation à l'environnement. Et dans le fond, assez peu de paléontologues ont eu cette approche. Alors moi, ça fait effectivement depuis 1987, ça date, que j'apporte d'autres...
Depuis 87, vous travaillez pour prouver prouver.
Pour expliquer ce que j'ai constaté, si vous voulez.
Et aujourd'hui, c'est toujours pas admis.
C'est difficile. Est-ce que c'est admis? Alors, tout le monde vous dira, c'est scientifique. Tout le monde le reconnaît. Vous prenez n'importe qui, un scientifique sérieux et honnête, qui connaît ma thèse, qui connaît les articles, vous dira que c'est scientifique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à aller chercher quoi que ce soit d'intentionné, comme certains se sont permis de le dire. C'est tout à fait scientifique. Ben alors, à partir du moment où c'est scientifique, qu'est-ce qu'on peut dire? On est bien obligé de reconnaître que, oui, c'est comme ça que ça s'est passé.
C'était Darwin, un autre regard. Reportage réalisé par Chloé Sanchez. Musique Aductrio. Merci à Anne Dambricourt-Malassé.
Changer le regard, aller derrière, aller plus loin, dépasser ce qu'on croyait être acquis. Mais ça, c'est extraordinaire de dire « Oh, on n'avait pas vu ça, oh, c'est comme ça, c'est jamais fini, jamais fini ».